avait une pancarte tout à l'heure quand on rentre. Ici c'est le chaudron. Quand je suis sorti, j'ai écrit ici c'est le potager. Quoi.
RMC Football Show.
Moi j'ai l'impression que je suis venu aujourd'hui jouer sur l'hippodrome du Pont de Pontvivo. En fait, il faut faire courir les chevaux sur le stadiodrome en ce moment.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot. Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo qui nous a rejoint, Monaco vient de s'imposer 2-0 face à Lyon. Lyon qui restera troisième, ça on le savait. Lyon qui a 5 points de retard du coup sur Lille et qui n'a plus que 3 points d'avance sur l'AS Saint-Etienne. Et puis Monaco qui avec ce succès est 16e mais qui compte maintenant 5 points d'avance sur la place de barragiste. Bonsoir Pierre, bonsoir Daniel.
Bonsoir messieurs. Bonsoir
voilà, les gars. C'est sympa ce match là.
Ouais, très bien.
Deuxième période, un peu
sympa côté ASM, voilà. Et un peu moins.
Un bon dimanche.
Voilà, un bon dimanche. C'est vrai que le dimanche était plutôt sympa. Avec les résultats qu'on vient de vous donner, la victoire de Reims 4-2 à Montpellier, un partout entre Toulouse et Caen, Rennes et Marseille, ça a fait un partout également. Et puis Nantes qui a battu Bordeaux 1-0 aussi. On va débuter ce match par le plus important. On va débuter ce match par les 3 points, les gars.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Mais souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Ouais. Quels sont tes 3 points, Daniel, ce soir?
Le premier concerne Monaco, new look qu'on découvrait, parce que c'est toujours important quand ça arrive dans le Sunday Night Game. Hein. Tout le monde regarde, on met les plus beaux habits et on fait un peu le bilan. Et effectivement, là, on a une sorte de Monaco métamorphosé dont il sera intéressant de parler. Le deuxième point, c'est sur l'OL, toujours aussi incompréhensible. Incompréhensible les performances, incompréhensible le contenu des matchs, les chiffres aussi, l'écart par rapport au premier, l'écart par rapport aux poursuivants qui font des saisons cata. On sait même plus trop quoi penser de cette équipe qui, dans le contenu, moi, me déçoit plus souvent qu'elle me satisfait. Troisième point, Rennes-Marseille et globalement l'après-midi en Ligue 1 qui a plutôt été belle. Dans le Rennes-OM, je dirais que c'est un bon point pris par Marseille parce que je pense que Rennes était un petit peu au-dessus malgré la fatigue.
Ok, on y reviendra aussi hein, sur ce Rennes-Marseille.
C'est un bon match. Hein,
ouais. Pierre, tes 3 points ce soir.
Bon, heureusement que je les ai marqués, je peux vous les montrer, mais petit 1, Lyon, non mais véridique, Lyon, j'ai marqué trop faible et trop irrégulier. Comment Lyon peut aujourd'hui faire cette prestation, même contre un bon ASM, et faire le type de match qu'ils nous ont fait cette semaine en Ligue des Champions. Au moins dans l'investissement et dans l'agressivité, au moins ça. Deuxième point, l'ASM, maîtrise collective, j'ai pas envie de sortir quelqu'un, on va parler des individualités, mais c'est un autre Monaco, et c'est un Monaco qui va pouvoir aller s'il continue comme ça collectivement. C'était le premier test contre Lyon finalement de ce nouveau Monaco. Il est plus que réussi. Et troisième point, j'ai marqué Reims, j'ai marqué Rennes, j'ai marqué Marseille parce que effectivement on a eu des beaux matchs. Marseille en difficulté dans une première période qui réagit bien dans une seconde. Reims qui fait quelque chose d'assez exceptionnel effectivement à Montpellier. Enfin voilà, on a eu des bons matchs. Le Toulouse-Caen est pas mal aussi. On a eu des beaux matchs cet après-midi.
Je vous donne mes 3 points également, je vais pas être très original non plus. Monaco qui a été bon et c'est vrai qu'il est complètement métamorphosé là, notamment depuis le retour de Jardine, qui a pas encore perdu d'ailleurs hein, depuis qu'il est revenu du côté de Monaco. Lyon pas bon, et là je vais rejoindre un peu ce que vous disiez tous les deux dans vos 2 points, mais moi j'ai hâte d'écouter les explications de Bruno Genesio, voire du président Jean-Michel Aulas, voir quelle va être l'excuse cette fois-ci. Alors ça va certainement être les blessés d'ailleurs.
Vas-y, finis tes 3 points, on va en parler après.
Ça. Et puis le troisième point, alors vous avez cité plusieurs matchs, moi c'est Reims, parce que c'est vrai que Reims est quand même 6e au classement. Alors ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure, mais Reims 6e au classement, 41 points, qui a égalité de points avec Marseille, qui va peut-être être européen. Alors bravo à eux, hein, c'est pas la question.
Est-ce que c'est normal quoi?
Voilà, est-ce que c'est normal? C'est surtout surprenant de voir les autres équipes avec autant de points que Reims à ce moment de la saison. C'est surtout ça. On y va, on débute cet after avec ce Monaco-Lyon, cette victoire 2-0 de l'ASM. Les buteurs Gelson Martins à la 18e, Ronny Lopez à la 27e. Alors match qui a été marqué aussi par les deux blessures en première période de Marsal et de Terrier. On rappelle que Fekir était absent également. Il y a eu ce penalty également repoussé par Subasic à la 71e, alors que Monaco menait déjà 2-0 dans cette rencontre. Qu'est-ce que vous retenez, vous, d'ailleurs, de ce match? On se posait un peu la question au début de la rencontre, de savoir qui était le favori, finalement. On retient quoi? La défaite de Lyon ou la victoire de Monaco?
Ah, le favori, quand t'es l'OL en Ligue 1, que tu peux revenir à 2 points de Lille, bien sûr que t'es favori quand t'es l'OL. Même si c'est un Monaco transfiguré ou transformé plutôt au Mercato et que l'ASM revit, logiquement, avant le match, tu dois être le favori quand t'es l'OL. Sauf que dès le départ, dès les premières minutes, on sent que l'OL est pas dans son match, mais pas du tout. T'as des pertes de balles, t'as des duels qui sont pas joués. Le premier but est un exemple parfait. T'as Mendy qui est à 3 mètres, donc il a un mauvais appui sur le premier but, mais après il doit sortir sur le frappeur. Il doit même pas se poser la question.
Il a fait des redanges dans l'axe ce soir, Mendy.
Ouais, aussi. Enfin voilà, c'est un duel qui est joué et qui est lourd de conséquences. Enfin qui est pas joué, pardon, et qui est lourd de conséquences parce qu'il y a but derrière. Mais ça a été ce genre de duel qu'ont joué l'OL tout le match quasiment. Donc ils sont pas dans leur match. On peut parler tactique, on peut parler de. Effectivement, tu peux me parler de Monsieur Genesio ou de Monsieur Aulas, mais. Enfin pour moi je suis désolé, c'est pas eux qui sont sur le terrain là ce soir. Dès la première minute, les joueurs de Lyon, les joueurs qui sont sur le terrain doivent faire mieux.
Daniel.
Bon, après Monaco est un adversaire particulier. Il faut quand même commencer
en ce moment. Ah, ils ont été très bons.
Je serai le premier à vouloir parler de Lyon et à pointer du doigt des choses que je mets en avant depuis très longtemps maintenant. Mais ils ont joué un faux 16e du classement. Ils ont joué une fausse mauvaise équipe. Puisque non seulement toi tu disais le retour de Jardim, mais le retour des joueurs.
Ouais,
non,
enfin, et l'arrivée de joueurs même aussi. Il y a eu le mercato aussi.
L'arrivée, et en fait tu as même l'impression que certains arrivent comme s'ils avaient
été Glick, Falcao,
une sorte de vacances prolongées, de je ne sais quoi, d'univers parallèle.
Même si Dibé, bon, ce soir aussi.
À tel point que si tu prends l'équipe comme elle est là maintenant. Je pense qu'on peut prendre l'équipe là et regarder à la 38e journée en imaginant que le championnat ne débute que ce soir. Monaco sera podium. Tu vois, si tu comptes simplement là. Et si la saison prochaine, il redémarre avec cette équipe là, imaginons toujours, permettez-moi de faire un peu de science-fiction, il joue le podium. Aujourd'hui, si tu prends cette équipe de Monaco comme elle est constituée ce soir, dites-moi à quel poste Lyon est meilleur.
Je parle en général, en gros ta question,
c'est quel joueur de Lyon aurait sa place à Monaco.
Dis-moi à combien de postes Lyon va véritablement être meilleur que Monaco ce soir.
T'as peut-être un Dembélé qui peut être meilleur qu'un Silva. Voilà,
c'est pas des masses.
Ouais, il y en a pas 36
de Monaco ce soir. Et c'est maintenant
quand les joueurs sont à ce niveau là
et rajoute aussi sur le banc.
Ouais.
Aussi sur le banc. Ouais. T'as un meilleur entraîneur, t'as des joueurs à tous les postes qui valent ceux de Lyon et pour moi à beaucoup de postes même sont meilleurs.
À l'infirmerie aussi.
Ouais, non mais bien sûr.
Non mais c'est
bien
vrai. Sûr. Même leur infirmerie, c'est vrai parce qu'ils ont. Meilleure. Non mais ils ont encore des mecs à l'infirmerie.
Non, mais attends, Golovin, Ronny Lopez, Falcao, Glick, Fabregas. À partir du moment où tous ces mecs-là, même le petit Gelson Martins qu'on découvre,
sont à leur niveau,
sont en route. Sidy Bé qu'on n'a pas vu bon comme ça depuis des mois parce qu'il a accumulé les blessures pour mille raisons. Mais je veux dire. Potentiellement par rapport à ce qu'il a, c'est un mec qui a fait demi-finale de Ligue des Champions. J'aime beaucoup Léo Dubois, il y a pas de problème avec ça. Mais à plein de postes, tu as du très lourd à Monaco, à condition qu'il soit au top. Et là, ce soir, et notamment sur la première période, ils ont été excellents. Phase de pressing, récupération, utilisation du ballon, élimination à un contre un. Ce que fait Ronny Lopez sur son but, c'est du haut niveau. Mais Ronny Lopez est un joueur de haut niveau. C'est un jeune joueur qui, s'il a pas de pépins, doit faire une belle carrière. On est en train de parler d'une très belle équipe. Donc déjà, quand tu considères ça, tu te dis que Lyon, ce soir,
devait faire un gros match.
Pour s'en sortir, doit être en niveau Ligue des Champions.
Ils doivent être au niveau, mais
Lyon, on en reviendra toujours à la même chose. Si tu les prends depuis le début de la saison et globalement maintenant depuis des mois, dans le contenu, quand est-ce qu'ils sont bons les Lyonnais? Quand ils sont en position d'outsider, qu'ils doivent défendre, avoir un bon état d'esprit, se battre. Tu as souligné justement ça, ils ne l'ont pas eu. Mais dans le contenu et dans le jeu, qu'on me cite un match où les Lyonnais, ils ont été bons contre le PSG, mais dans le contenu, toute la seconde période, bon, il y a pas grand-chose. Le scénar tourne contre City les deux fois, on est recroquevillé, hein, et contre le Barça mardi, ils font un match au niveau état d'esprit impeccable, tout ce que tu veux, mais le Barça tire 25 fois, c'est la première fois que ça leur arrive.
Oui, ça arrivera pas tous les week-ends.
Dans le contenu, ils perdent le match. Dans le contenu, il y a une chose et le score, une chose est ce qui se passe sur le terrain.
Parce que ce qu'on sait, nous.
L'amélioration des Lyonnais.
Non, et puis ce qu'on sait, ce qu'on voit, nous, je suppose que M. Genesio le voit aussi, ça peut pas lui échapper. Enfin, Gérald Batik avec lui aussi, enfin, tout le monde.
Combien de matchs ils ont fait? Donc, une mi-temps, une autre mi-temps, pas bien.
Mais je pense qu'ils essayent de régler ce problème-là. Et ils y arrivent. C'est pour ça que je parle quand même des joueurs, moi, parce qu'à un moment donné, quand c'est dès le début du match comme ça.
Et Pierre, à un moment, les joueurs. Moi, je veux bien, je suis d'accord avec toi, mais à un moment, il y a un problème, c'est qu'il y a une personne qui dit aux joueurs ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Je sais
que t'as pas l'impression que même s'il le dit là, ça sert à rien finalement. Ouais,
je suis le premier à vouloir responsabiliser les joueurs et ils exonèrent pas de leur faute. Mais Lyon, le problème, il est méga récurrent, quoi. Il joue contre un gros.
Nombre de ballons perdus
bêtement aujourd'hui. Nickel, machin, mardi, ok, ils doivent le perdre, mais ils le perdent pas, ils s'accrochent tout. Le match retour, moi, je suis à peu près sûr qu'ils vont faire un bon match. Après, advienne que pourra. Nous, logiquement, ils sont en dessous. Mais le match, on est à peu près sûr, ils vont le faire et tout ça. Là, ce soir, ils arrivent contre Monaco. Qu'est-ce qu'ils se sont dit?
Ils se sont dit quoi? T'imagines pas Genesio dire dans les vestiaires, les mecs, à chaque fois, on a la mauvaise expérience, on a la mauvaise surprise au cul de ces matchs-là.
Sauf que visiblement, ça marche pas.
Ce soir, on le fait pas,
quoi. Sauf que visiblement, ça marche pas.
Ouais, donc c'est,
mais. On a l'impression qu'ils se motivent tout seuls.
Ouais, donc est-ce que le problème c'est le discours du coach qui n'est pas suffisant, ou alors c'est parce que les joueurs ont pas envie de le recevoir, quoi.
Mais quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'il y a un problème.
Il y a un problème. Oui, mais c'est peut-être pas la faute du coach, quoi, je veux dire, tu vois. C'est peut-être les joueurs ont pas envie de le recevoir, le discours.
Ça veut pas dire que Genesio fait mal les choses. C'est compliqué.
Ça veut pas dire que Genesio fait forcément mal les choses. Ça veut peut-être dire que les joueurs veulent pas percevoir le message. Alors, parce que c'est lui ou pour
quelle raison d'ailleurs. À un moment, il y a un problème. Quand il y a un message, il y a un émetteur, un récepteur. Le problème, il est récurrent quand même. Les gars, t'as vraiment toujours le sentiment que c'est leur match. Alors, oui, tu peux dire Fekir pas là, mais même sans Fekir, il est déjà arrivé avec Fekir.
Le salaire est pourri, ils ont pas Fekir, ils ont deux blessés après 20 minutes de jeu.
Oui, mais tu le sens tout de suite.
Je te parle juste ce que disait la première période. Ils se font tourner.
C'est clair.
Vraiment, Monaco, ok, je l'ai bien dit pour commencer, c'est une équipe toute neuve avec que des super joueurs, mais ils se sont fait manger tout cru. Est-ce que Lyon, troisième, qui ambitionne de faire deux, qui est, par la voix de son président, chaque semaine en train de chialer sur l'oseille, sur ce qu'ils ont pas, sur ce qu'ils ont, sur la grandeur du club, tiens, Lyon, c'est 22 points de retard sur le PSG. C'est uniquement 5 points d'avance sur un OM qui est complètement démembré cette année, qui fait une saison malheureuse. Sur Reims, qui est c'est génial ce que fait Reims, mais dans notre championnat, ouais, normalement, c'est une frotte de bique.
C'est pas la...
Non, mais par rapport à Lyon.
J'aurais pas été jusque là, mais...
Par rapport à Lyon.
On n'est pas dans la normalité de ce qui devrait arriver.
Dans quelques choses, tu vois. Et 3 points sur le rival stéphanois, qui est pas non plus, tu vois, c'est...
Ah bah, dans le jeu en ce moment, surtout, ouais.
C'est petit niveau par rapport à Lyon, niveau budget, tout ça, puisque maintenant, il y a le nouveau truc des Lyonnais, c'est plus le budget, c'est masse salariale. Tu sais, à chaque fois, ils te sortent un nouveau truc pour s'excuser des contre-performances et du contenu du match. Donc. En masse salariale. Voilà.
Tiens, on va accueillir Clément, les gars, qui est supporter de Lyon.
Au bout d'un moment,
et qui nous a appelé au 32-16. Salut Clément.
Salut les gars, salut à tous.
Bonsoir Clément.
Alors toi Clément, tu sentais le piège arriver avant ce match-là pour Lyon face à Monaco?
Bah ouais, parce que quelque part, cette équipe de Lyon, on la connaît vraiment, on va dire, fragile au niveau de son investissement et malheureusement une facilité maladie va se relâcher. Alors encore plus en transition, Coupe d'Europe, Championnat, ça ne pouvait que être pire. Et ce soir, voilà, Monaco l'a très bien exploité. Monaco le savait, ils nous ont pris à la gorge dès le début du match. On s'est fait tuer, quoi. Monaco nous a tués, on a pris une leçon. Il y a des joueurs que je ne reconnais pas. Simplement, le relâchement était vraiment visible. Dès le début du match, les joueurs, j'ai trouvé physiquement cuit. Pas forcément super investi, il y a des actions qui font peur à voir. Par exemple, un 6 mètres de Subasic ça m'a affolé. Un 6 mètres de Subasic, Falcao, à la retombée, a le temps de contrôler, se retourner. On voit aussi Dubois qui a fait un match énorme contre Barcelone. Là, il y a peut-être une forme de relâchement conscient. Après, c'est un joueur qui est jeune, qui découvre. Donc forcément, faire ces transitions Coupe d'Europe Championnat, c'est pas forcément simple. Et puis au niveau de la gestion d'équipe, j'ai souvent insisté sur le fait que Bruno Genesio faisait bien tourner, il y avait une bonne gestion intelligente, il y avait une bonne rotation des joueurs, mais ce soir j'aurais quand même peut-être procédé différemment. Il y a des joueurs qui sont un petit peu cramés, je pense à Aouar, Ndombele qui enchaîne les matchs, à Terrier qui a joué 3 matchs en une semaine, alors que le pauvre, il a pas joué, il a très peu joué depuis 6 mois. Là, ben voilà, il enchaîne.
Ouais, t'avais pas matchs, beaucoup de choix, hein, sur le banc, si c'est ça le problème.
Bah, t'as quand même Cornet qui peut apporter quand même des bonnes choses.
Ouais, devant, de mais pour avoir, c'était compliqué de pas le mettre.
Hein. Excuse-moi, Clément, mais tu vois, Monaco est une équipe qui est une sorte de puzzle qui vient d'être un petit peu reconstituée avec, je le répète, beaucoup de très bons joueurs. Rapidement, au niveau de ce qu'ils proposent dans le contenu. Donc d'abord il y a eu quelque chose de cohérence et ils ont voulu presser très haut, être très rapide à la récupération, à l'utilisation, et ensuite tu as vu des échanges, des transmissions, du mouvement, c'était propre, il y avait des joueurs techniques, ça facilite toujours pour faire ce genre de choses.
À Lyon, on parle
depuis tout à l'heure, état d'esprit, machin, tout ceci, cela. Mais en fait depuis le début de la saison, c'est toujours ça, on parle énormément de ça. Mais sur le jeu, c'est quoi le jeu de Lyon en fait? C'est de savoir quand Fekir est en forme pour orienter correctement le jeu, voire le sauver lui-même avec un exploit. C'est est-ce que Memphis va être dans un bon jour avec l'envie de jouer? C'est quoi les circuits préférentiels? C'est quoi? Bon, je parle pas des multiples compositions d'équipes différentes, 4-2-3-1, 4 Fekir plus 3, machin, ça on n'en parle même pas. Mais juste les échanges entre les joueurs, les beaux mouvements collectifs, ce genre de choses-là. Est-ce que ça existe à Lyon depuis, même dans leurs bons matchs? Clément, je le répète, vraiment contre City, ce sont de bons matchs, mais les matchs vraiment en conflit défensive, on sort le ballon très vite.
Comment t'expliques les pertes de balles?
Mais le problème c'est qu'après il faut essayer de changer ça. Tu vas pas rencontrer tout le temps Manchester City dans ta vie.
Laisse Clément répondre,
Daniel. Quoi, tu vois.
Vas-y Clément.
Non, juste comment t'expliques Daniel ces pertes de balles mais incessantes au milieu de terrain? Aouar qui a perdu, je sais pas, depuis un bout de temps, il perd des ballons comme ça dans les 25 mètres, 30 mètres.
Mais parce que Aouar c'est un jeune joueur, il faut rappeler quand même que c'est un gamin de 20-21 ans, que il lui est demandé visiblement d'être le taulier du milieu de terrain, que la plupart du temps, bon là il y avait Touzard, mais souvent il joue à deux, je sais pas comment on peut appeler ça, double pivot.
Devant la défense.
Mais bon, c'est pas non plus un rôle qui leur va forcément super bien à ces deux-là. Que à deux, bah ouais, ils s'échangent des ballons. T'en as toujours un qui fait un coup un petit peu, un truc un peu. Et il en fait toujours une ou deux touches de trop, pardon, c'est ce qui arrive souvent à Tanguy Ndombele. Aouar, il apparaît un peu perdu. Est-ce qu'il a aussi un coup de pompe à son âge? C'est peut-être compréhensible, il accumule, on attend énormément de lui, normalement, et en plus l'organisation du jeu.
Moi après, si je peux répondre à ta question, Daniel, peut-être mis à part le match de ce soir, parce que le match de ce soir, finalement, il passe complètement au travers, et c'est pas le problème de fond dont tu parlais. Le problème de fond dont tu parles, je pense, c'est que quand effectivement ils sont dans le rôle d'outsider, le plan de jeu, les principes de jeu sont très tranchants, très clairs.
Exactement.
Et ils savent le faire et ils le font très très bien. Quand ils se retrouvent dans la peau du favori où ils ont plus le ballon, parce que ce soir ils ont encore plus le ballon que Monaco hein, dans le contenu, hein, c'est assez fou, mais ils ont plus de possession que Monaco. Et ben là effectivement c'est toujours un peu moins tranchant, c'est toujours un peu moins délié, c'est toujours un peu moins fluide. Et finalement je pense que Lyon adore subir un peu et contrer et ils ont pas l'autre jeu dans.
C'est pas qu'ils adorent. C'est qu'il y a pas autre chose.
Ils sont faits pour ça.
Il y a pas autre chose.
Ils ont les profils pour jouer comme ça.
Parce que le collectif, excuse-moi, on l'a dit mille fois, mais entre Memphis, Traoré, Dembélé, on a des solistes quoi. Tu vois, c'est des solistes. Les mecs, c'est à chaque fois s'ils réussissent un geste, une passe, je veux pas parler de passe parce qu'ils s'en font moyennement quoi. Mais c'est la bonne frappe, le bon machin, la bonne élimination. Mais le jeu collectif de Lyon, moi, je maintiens qu'il est quasi inexistant et ça fait très longtemps que ça dure.
Ouais. On remercie Clément, supporter de l'OL, qui nous a appelé au 32.
Bonsoir, avec Monaco en deux semaines avec une équipe puzzle et Jardim qui vient d'arriver. Déjà, là, t'avais l'impression.
Oui, t'as vu des triangles, t'as vu des combinaisons.
Ouais, franchement, ce soir, regardons à partir de ce soir et attendons la 38e, on verra ce que Monaco aura fait sur cette période-là. Tu vas voir.
En tout cas, s'ils jouent comme ça, oui, ils seront.
Il y a une phrase qui risque d'être ressortie dans les prochains jours. C'est la fameuse sortie qu'avait Bruno Genesio au moment du retour de Jardim. Vous savez que Jardim était annoncé du côté de l'OL et Genesio, en conf de presse, c'était fin janvier, avait déclaré, pour répondre à cette rumeur, le président Aulas a choisi cela depuis 30 ans en parlant de la stabilité, justement. J'ai gagné 4 fois sur 6 contre Monaco lorsqu'il était coach, dit-il en parlant de Jardim. Si on le considère comme un très grand coach, je peux aussi me positionner, avait dit Genesio. C'est vrai que cette phrase phrase. Il a, d'ailleurs, juste avant le match, en oui. conférence de presse cette semaine, il avait dit, il a essayé d'éteindre un petit peu l'incendie, parce qu'il y avait oui. pas mal d'interprétations suite à ça.
Non, et puis c'était une période où on le gavait beaucoup avec ça. Donc je pense que ça devait l'agacer et qu'à un moment donné, il a voulu dire aussi que on pouvait le critiquer, mais que il était aussi, enfin, il valait aussi le coup, quoi. Il était capable aussi de faire. Ouais, c'était son moyen de répondre.
Il a
été un peu maladroit.
Et Jardim a dû finir deux fois devant lui, a fait demi.
Oui, voilà, c'est bon.
Il a pas voulu rentrer là-dedans, d'ailleurs, Jardim.
L'histoire.
Non, c'est mieux, mais. Du, ça a été maladroit, je pense.
Battu, toi. Oui, ok, parce que les configs de match font que, en plus, quand il les a battus, là, c'était, des contextes, les contextes des matchs, dans ces cas-là,
c'était important, hein.
Ouais.
On va accueillir Adrien qui lui est supporter de Monaco. On rappelle victoire de Monaco 2-0 face à Lyon ce soir. Salut Adrien.
Je sais que certains l'ont vu supérieur à Guardiola parce que il a fait une victoire, un nul contre City. Je veux dire, si on va dans ce genre de dans les confrontations directes, on en est plus à un délire près dans le foot, quoi.
Salut Adrien.
Moi j'ai entendu des gens dire qu'il avait donné la leçon à Guardiola.
Bon Daniel.
Là, au niveau humilité là, on est dans le délire absolu. Non,
mais
quoi.
C'est ta faute aussi, tu le surnommes Pep le mec, donc forcément. Les gars arrivent. Mais
moi c'est pas contre lui, hein. C'est pas contre lui. Moi je sais que lui il est il y a pas de problème avec lui, son humilité. Je veux dire c'est les gens, il y a des commentateurs en France qui ont dit il a donné la leçon à Guardiola.
Après
rien que de répéter la phrase alors qu'elle est pas de moi, j'ai l'impression que j'ai articuler les mots.
Tu sais dans quoi on est Daniel aussi là, c'est que les médias on est vraiment, enfin moi souvent la culture justement de la stat, c'est comme quand tu compares deux ou trois gardiens du même championnat, il y a tellement de choses pour comparer des gardiens, autre chose que le nombre de buts encaissés par exemple, mais tu vois des émissions où c'est fait comme ça, on donne juste des chiffres,
ou les arrêts,
on s'occupe pas, voilà, ou les arrêts, on s'occupe pas de la défense devant,
le gardien qui en a que deux à faire dans un match et l'autre qui en a 10, bah oui,
ouais, ça, et puis t'es pas dans la même équipe surtout, quoi.
Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle stat maintenant qui est très tendance. On en parle de temps en temps d'ailleurs avec Julien Momont sur RMC Sport, mais c'est la stat du expected goals. En fait, c'est la stat qui détermine.
Ça, elle est plutôt intéressante.
Alors, c'est plutôt
souvent,
bien fait,
stat,
mais c'est
pas mal. Mais faut que ce soit justement très bien fait. Ça.
Alors justement, c'est le truc. En gros, c'est la probabilité qu'a un joueur de marquer des buts et finalement son efficacité. Alors c'est assez complexe, etc. Mais c'est vrai qu'il pousse le truc finalement très très loin aujourd'hui. Hein,
ouais, parfois on est et la confrontation de coach.
Oui, mais je répète.
Les stats... contextes sont toujours différents.
Des stats qui sont des stats grand public.
Ouais.
Celles qui sont le plus données, parce qu'il y en a un paquet, il faut quand même savoir, et que nos auditeurs sachent, il y en a plein qu'on n'a pas le droit d'avoir, que seuls les entraîneurs ont. Il y a un système qui est un peu bizarre sur les stades et tout, mais
notamment les kilomètres parcourus, c'est très chiant à voir, ça, vraiment.
Exactement.
Et c'est les plus, c'est les plus intéressantes. En tout cas, ça veut dire quelque chose.
Courses à haute intensité, c'est quasi injouable les avoir, sauf si un mec dans un club veut bien te les filer, c'est très dur. Mais 90 des stats, celles qui sont grand public, sont archi bidons.
Adrien, bonsoir. Il est arrivé. Salut Adrien, supporter de Monaco. C'est Sylvain ou pas le nom de famille?
Non, presque.
Vas-y.
D'origine portugaise aussi, donc.
C'est quoi?
Voilà.
Bah, dis-le. Dos Santos, Gonçalves.
Dias Pereira, c'est presque pareil. Dias Pereira.
Ah, Dias Pereira, bien sûr. Voilà. Dias Pereira.
Oui, Dias Pereira. Ah bah, voilà. Je connais.
Ouais. Alors Adrien, quelle analyse tu fais toi de cette victoire de Monaco face à Lyon ce soir?
Alors, si Daniel me laisse le temps de parler, j'ai presque envie de dire 3 points. En fait, pour pas faire trop dans le chauvinisme, point numéro 1 de la communauté portugaise, on va dire que Gelson Martins, Adrien Silva, Rony Lopez, le revenant Leonardo Jardim, tout ça, ça nous fait énormément de bien. Nos deux attaquants sont extraordinaires. Adrien Silva a tout bloqué au milieu, notre nouveau Moutinho. Beaucoup de bonheur à les voir. Le deuxième point, j'ai presque envie de dire, parce que je suis à Grenoble, mais j'ai envie de parler de Philippe Coens et de son équipe, qui n'est autre que le médecin de l'AS Monaco, qui nous a remis sur pied, Souba, Sidy Bé, Rony Lopez, Golovin.
Les a remis sur pied, ils ont quand même été malades 6 mois.
Ça a été long, quand même.
C'était long, mais heureusement qu'ils sont là, parce que...
Comme si tu dis merci à ton médecin, j'ai eu la grippe pendant 2 semaines, mais je m'en suis sorti quand même. Hein.
Merci, hein.
Merci le doc, hein.
Non, bref. Et puis un que j'ai pas envie qu'on oublie, même s'il est pas resté très longtemps, c'est Thierry Henry, parce qu'il faut pas juste rappeler, j'ai déjà passé dans l'acteur pour dire ce genre de choses, mais, à un moment donné, il a remis aussi, un petit peu de mental et surtout de la prépa physique, il a remis tout le monde d'équerre, il y avait des grosses failles, il a fait quand même un stage hyper important. Et faut pas oublier le travail qu'il a fait, parce que Leonardo Jardim revient en sauveur. Ok, ça a été un très très bon entraînement. entraîneur pendant 5 ans et je suis sûr qu'il va encore continuer dans sa lancée. Mais il y a eu la petite pause Thierry Henry qui nous a fait énormément de bien et ça, elle est quand même importante à souligner aussi, quoi.
Ouais. Je pense pas forcément à Thierry Henry ce soir, mais pourquoi pas, ouais.
Je sais pas, Adrien, les éléments que tu as. T'as peut-être d'autres éléments que nous. Si t'es sur place là-bas, peut-être, je sais pas. Mais moi, j'ai pas assez d'éléments pour juger que si Thierry Henry avait remis physiquement déjà l'équipe sur pied, parce que j'avais pas l'impression de voir un grand Monaco sur le plan physique justement quand Thierry Henry était là. Et mentalement, j'ai pas eu l'impression qu'il était, enfin, qu'il déclenchait beaucoup de choses chez les joueurs quand même, quoi.
Je pense qu'il y a des choses qui ont. Alors, on a déjà eu cette discussion et c'est vrai que toi, je te sens un petit peu, pas dire anti Thierry Henry, mais c'est vrai que la dernière fois, c'est un petit peu, ça peut pris le bec toi et moi parce que tu me disais.
Anti Thierry Henry.
Non, j'ai dit qu'il était pas anti Thierry, mais déjà la dernière fois, je vantais les mérites de Thierry Henry et déjà tu me contredisais. Voilà.
En fait, moi, Titi Henry, je le connais un petit peu. On a été allié à Clairefontaine ensemble. J'adore Titi Henry. J'adorais le joueur Titi Henry. J'étais persuadé parce que je sais que c'est quelqu'un de très intelligent. J'étais persuadé qu'il s'adapterait à son rôle de coach ou en tout cas qu'il adapterait son caractère à son rôle de coach. Et forcé de constater qu'il l'a pas fait. Après, c'est un constat.
Après, il a pas eu beaucoup de temps pour le faire non plus. Maintenant, une chose est sûre, c'est que je reviens sur mon premier point. Le retour de Ronny Lopez, qui est
ça fait du bien.
Jason Martins, c'est inconnu que personne connaît, sauf les supporters.
Quand même, les gars.
Nicky Beach, il le connaît.
Ah non, mais arrêtez, les gars, il est à la
Tout ce qu'il parle pour il connaît.
Bah non, mais au-delà de ça.
Non, puis il a été irrégulier, mais il a déjà montré son potentiel. Mais par contre, il est irrégulier.
Non, mais d'accord, mais enfin, c'est non plus.
Tu peux pas dire.
C'est pas Vinicius, quoi, qui arrive à Monaco, tu vois.
Tu peux pas dire.
Je veux bien, à la limite, mais.
Enfin, je sais que Ronny, ça nous fait énormément de bien. Il y a une trouvaille aussi. Enfin, il y a que Jardim pour trouver ça. Mais moi, Jemerson, que j'ai hyper critiqué parce qu'il s'est trouvé tout le début de saison, toute la première partie de saison, et que bon, même si on l'a pas vu ce match-là,
Jemerson, je sais pas s'il retrouvera sa place.
Il nous met à la place de Fabinho, il nous fait une nouvelle Fabinho. Je sais pas ce que ça va donner, mais franchement, je trouve ça juste judicieux et étonnant, d'autant plus quand on voit le match qu'il avait fait la dernière fois. Enfin, il y a plein de choses.
Il n'est pas exclu que l'équipe de ce soir devienne l'équipe type quand même, hein. Genre match référence et tout ça.
Pardon ?
Que l'équipe de ce soir devienne l'équipe type, disait Daniel.
Pourquoi pas ? Je me dis pourquoi pas.
Avec un match par semaine en plus.
Oui, ils vont pas être surmenés.
Ouais.
Non, c'est vrai qu'elle a de la gueule, cette équipe.
Je te dis, à combien de postes Lyon est supérieur.
Voilà, Monaco a fait un très très bon match ce soir. Je suis super ravi, supporter Monégasque, ok. Mais il faut juste, sans démonter non plus, Lyon, il y a quand même plus de repos aussi pour Monaco. On peut se remercier d'avoir fait un début de saison pourri, parce qu'aujourd'hui, on est libre de s'entraîner tranquillement pour le week-end, contrairement à Lyon qui enchaîne. Alors oui, c'est dur psychologiquement de tenir la cadence et de se dire « je me remotive au prochain match et puis je me remotive ». C'est le gros problème de Lyon qui, dans les grands matchs, est capable de faire un match presque miraculeux et dans les petits matchs, d'être inexistante. Mais faut aussi cumuler tous les matchs et avec les blessures qu'ils enchaînent, c'est aussi compliqué. Donc on a aussi bénéficié de ça sans enlever tout le mérite du travail qui a été fait aussi par Monaco. Donc voilà.
Adrien, merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.
Merci Adrien.
On rappelle, victoire 2-0 donc de Monaco face à Lyon. Les buteurs Gelson Martins et Ronny Lopez. Et Monaco qui est donc à 5 points de la place de barrage, 5 points devant. Et puis Lyon qui reste à 5 points de la deuxième place.
Et Lyon qui en est à 6 défaites.
Ah, c'est beaucoup.
Autant que l'année dernière. 6 défaites. 6 défaites.
C'est beaucoup.
Beaucoup pour une équipe qui prétend le podium, qui l'aura probablement, je pense quand même. Mais c'est trop.
Ils l'auront parce qu'ils vont faire comme d'habitude, Daniel.
La boutique.
Quand ils vont être obligés d'aller gagner, ils vont y aller, quoi.
Et surtout une fois que la Ligue des Champions sera finie, là, c'est tout droit. Ils ont l'effectif pour. Oui. Parce que devant, après, derrière, dit que ça ne pourra pas recoller. Mais bon, je sais pas.
Dans quelques instants, on va se plonger dans le match nul de cet après-midi entre Rennes et Marseille. Rennes le jour après la qualif en huitième de finale d'Europa League. Marseille qui donc compte pas mal de points de retard sur le podium, qui profite pas finalement des contre-performances des autres non plus. On vous attend, supporter de l'OM, supporter de Rennes au 32-16. On va revenir sur le cas Ben Arfa également, alors qu'il n'était pas présent, qui a été mis à pied, du moins sanctionné, pas convoqué par Julien Stéphan. On vous explique ça avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot juste après ça.
RMC Football Show. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Daniel Riolo et de Pierre Ducroix, avec vous également au 32-16. On vous rappelle les résultats de ce dimanche de la 26e journée de Ligue 1. Reims qui est allé gagner 4-2 à Montpellier, un partout entre Toulouse et Caen. Nantes a battu Bordeaux 1-0, un partout aussi entre Rennes et Marseille. On va l'évoquer dans quelques secondes. Et puis on vient de l'évoquer aussi, la victoire de Monaco 2-0 face à Lyon. Un partout entre Rennes et Marseille. Donc Rennes qui a marqué le premier dans ce match grâce à André Germain qui a marqué. Enfin, il avait plus marqué depuis le mois de septembre. Valère Germain.
Au prix d'une belle bosse.
Ouais, il avait un bel œuf sur le front. Il a pris un de ses coups, Valère Germain. Alors Marseille qui fait match nul, mais Marseille qui profite finalement de la défaite de Lyon ce soir. Marseille qui est qu'à 5 points du podium.
Enfin, qui profite ouais, quand t'es Marseillais avec la défaite de Lyon, t'as peut-être envie d'autre chose. Mais bon, disons que tu pouvais pas avoir autre chose.
Voilà, ils sont à 5 points du podium, les Marseillais. Les Rennais donc le jour d'après la qualification en 8e de finale d'Europa League qui sera face à Arsenal, ça vous le savez. Et puis alors, on va faire une petite parenthèse, on va parler de ça quand même aussi. Ben Arfa qui était pas présent, on s'est demandé pourquoi. Et on a eu l'info à la fin du match, c'est Julien Stéphan qui a expliqué que Ben Arfa s'est pas pointé à la mise au vert parce qu'il était fatigué. Alors Julien Stéphan qui a expliqué, il était épuisé, il s'est excusé. Tout va rentrer dans l'ordre tranquillement, expliquer Stéphane à la fin.
Alors, mais laisse-le tranquille, qu'est-ce que tu l'emmerdes, il est fatigué, il vient pas à la mise au vert, laisse-le tranquille, voyons. Fais ce qu'il veut.
Après faut juste savoir s'il était trop épuisé pour aller à la mise au vert. Alors là je t'avoue que j'ai du mal à comprendre si c'est ça.
Il peut pas marcher, c'est ça?
Et si non mais ou alors s'il a eu un contact avec son coach pour lui dire coach, je suis trop épuisé pour jouer. Et auquel cas, là, tu le laisses à l'extérieur parce qu'il ne sert à rien. Faut juste avoir la précision. Mais si c'est trop épuisé pour se rendre à la mise au vert, là, effectivement,
c'est la star de l'équipe.
Je comprends pas.
Merci.
Non, mais le contexte est très favorable pour elle, donc c'est dommage d'avoir ce genre de...
Bon, en tout cas, le match était plutôt pas mal. Et
ouais, parlons fou.
Je m'attendais à voir des Rennais un peu émoussés parce qu'ils se sont quand même mis en 4 jeudi soir.
Il était en deuxième période.
Ils l'ont été en deuxième mi-temps, ouais. En deuxième période, pardon.
Et dès le début, c'est plutôt pas mal, justement, de s'être dit, on va y aller, on joue, on va jouer très haut et... Je les ai trouvés super intéressants, très généreux. Et là, tu te dis, et j'imagine qu'il y a beaucoup de supporters rennais qui doivent se dire, putain, notre club a vraiment changé parce que on n'est plus dans le ronron, dans l'image de cette équipe une fois sur deux très ennuyante. Enfin, même pas une fois sur deux, c'était 80% du temps, tu te faisais chier quand tu les voyais. Là, non seulement ils te font un méga match jeudi, t'as l'OM qui vient, la fête continue, parce que finalement il se passe plein de trucs autour de Rennes.
Et puis le stade est plein encore,
en fait, il y avait vraiment un stade aujourd'hui. Elle n'est que 9e au classement. Mm-hmm. Alors, sur la fin de saison, elle peut se taper des très bons moments qui marquent les gens.
Et ils sont à 4 points de l'OM.
C'est ça qui est important.
Oui, c'est très sérieux.
Et leur première mi-temps, je trouve super intéressant tout ce qu'ils font, même sans Ben Arfa. Grenier était un petit peu plus haut, ils ont eu les occasions. Moi, j'ai entendu Rudy Garcia dire on a eu chacun notre période. Bon, encore une fois, moi, je ne comprends pas la langue de Rudy Garcia, qui, à mon avis...
Dans les situations devant le but, peut-être.
Mais même pas.
Voilà, à la limite.
Franchement, même
dans,
pas.
Dans le contenu, la première de Rennes est meilleure que leur deuxième, mais ce qui ne veut pas dire que Marseille est au-dessus de Rennes en
l'OM
seconde.
L'OM fait rien dans ce match. Ouais. Balotelli, est-ce qu'on peut dire que Balotelli a fait un bon match? Non.
Non.
Maxi Lopez, non. Sanson, non.
Oh, Sanson n'a pas été mauvais. Moi, j'ai bien aimé Sanson.
Moyen, vraiment moyen. Tovin, moyen. Ocampos, non. Le meilleur, ça doit être Sakai, qui est toujours excellent et on le dit pas assez.
Germain a essayé quand même.
Germain, c'est jamais bon signe si c'est lui ton meilleur joueur quand même. On connaît ses limites.
Ouais, mais enfin, à l'heure actuelle,
à mon avis, bon, comme d'hab, quoi. Comme d'hab, donc. Comme d'hab, c'est quoi, comme d'hab?
Non,
à ma vie.
Il a eu peur.
Le comme d'hab.
Il a eu des habitudes qui étaient meilleures que celles qu'on lui.
Il a eu peur.
Le comme d'hab de depuis un an. À l'arrivée, c'est pour ça que je disais, ils ont pris un bon point.
Stéphane Mandanda était bon ce soir.
Parce que le match, ils peuvent le perdre. Si Rennes a un petit peu plus de jus, le match, ils doivent le perdre ce soir. Donc c'est un bon point pour eux dans la série qui est la leur. 3 victoires plus 1 nul à Rennes. Et dans une période qui s'annonce un peu compliquée parce qu'ils vont avoir le match, à mon sens, capital pour le virage. Tu sais, c'est le parfois il y a des virages dans la saison.
Ils jouent Saint-Étienne
au Vélodrome. S'ils les battent, là,
tu bascules du bon côté.
Là, si tu déconnes pas normalement après, au minimum t'es 4.
Daniel, il y a Saint-Étienne et Nice, et après il y a le déplacement au Parc.
Ouais, non, mais celui-là, il faut pas le compter, c'est à part. Mais si tu bats Saint-Étienne, là, je pense que tu bascules quand même du bon côté.
Bah, tu passes
après
devant.
Ce soir. Ils se font beaucoup rentrer dedans, il y a pas vraiment de réaction. T'as un Balotelli qui avait marqué à chaque match. Là, ce soir, je sais pas.
Il a traversé le match.
Alors c'est un peu le Balotelli un peu.
Ouais, je sais pas. Ce match, je vais pas lui plaire.
Il le sort avant la fin.
Non mais le mec, non seulement il prend jaune, mais après il s'obstine. Genre, Ouais, non, mais ça va être le jour où je vais mettre des savates, hein. Je vous préviens, là, j'ai pas du tout envie de me calmer. J'ai pas du tout envie de reconnecter mon cerveau. Je vais être con toute la journée. Non, mais franchement, le gars, mais arrête, quoi. Mais c'est incroyable,
on le connaît,
hein. Mais ouais, mais enfin, merde, à un moment.
C'est pas la première fois qu'il nous le fait, ouais. Et il le refera encore. Et entre deux, il va te planter deux, trois buts et.
Écoute. Moi, je pense qu'ils sont, ils s'en tirent plutôt pas mal pour cet après-midi, les Marseillais et Rennes, vraiment, il se passe, un truc très positif dans ce club en ce moment. Il y a une bonne dynamique et un bel état d'esprit, je trouve.
On vous attend, supporters de l'OM et de Rennes, au 32-16 pour y revenir, Pierre.
Non, moi, c'est un peu le même constat. Je pense que l'OM profite bien. En tout cas, tire le maximum de ce match et profite bien de la baisse de régime physique que les Rennais ont subi en seconde période. En première, pour moi, Rennes, effectivement, aborde le match où le...
Et sur la fin du match, les Rennais ont quelques situations qui jouent pas bien.
Ouais, ouais.
Niang sur le côté.
Ça aurait pu, plus mal se terminer pour l'OM.
Ça aurait pas fait un bon match. Je suis déçu, moi qui trouve qu'il est souvent bon, Ismaïl Assar. Je trouve qu'il fait pas un bon match.
Il a beaucoup tenté de choses un peu seul. Peu trop seul.
Tu vois, alors qu'il a quand même un boulevard, que
et puis si après, t'as un avis face à toi, tu dois en profiter. Il est mieux qu'il sorte parce qu'il était très énervé après.
Ouais, il a pas un bon match alors qu'il doit profiter sur un avis. Tu peux te régaler sur lui.
Il y a un élément aussi qui est important. Alors, on parle beaucoup de cette qualif de Rennes en Europa League, forcément, elle est historique. Mais c'est vrai que Rennes, on parlait tout à l'heure de la fraîcheur physique, de cet aspect qui va être très important pour eux. Ils ont aussi la Coupe de France qui va arriver aussi.
Oui.
Juste sur plusieurs tableaux en même temps, les Rennes.
Ouais, attends, c'est une équipe qui en ce moment est en plein kiff, quoi.
Bon, je vais face à Orléans d'ailleurs, les Rennes.
Et tu vois, dans un match comme ça, même aussi, avec l'enchaînement des matchs physiquement, tu sens qu'il y a une baisse de régime en seconde période. Ils arrivent quand même à continuer à faire
une prestation correcte. Il a plutôt bien fini, curieusement. Tu
retrouves le second souffle, à chaque fois, c'est souvent comme ça, de toute manière. Il te manque une demi-heure, mais t'as suffisamment pour terminer un peu plus fort. Mais, ouais, ce sera sûrement leur lot, j'allais dire quotidien, mais non, du week-end. Voilà, il y a des matchs où quand ils vont sortir de, si jamais ils vont un peu plus loin en Europa League, parce que c'est pas interdit d'y croire, contre Arsenal. L'Arsenal le plus fou qu'on ait déjà vu.
Ils partent encore derrière.
Ouais, ils partent derrière, mais. Bon,
et parfois au poker avec une moins bonne marque.
Arsenal défensivement cette saison, tu peux leur implanter un ou deux quand même. Hein.
Ah ben contre le Betis ce match retour, ils partent pire que quand t'as les as au poker.
Non mais mal aller.
Et tu t'en sors bien et contre Arsenal.
Défensivement Arsenal, c'est honnêtement, il y a quand même de la place. Alors offensivement, il y a de la qualité.
Ouais, mais bon, partent pas favoris.
Non, ils partent pas favoris, mais je veux dire, c'est pas fou de penser qu'ils peuvent faire quelque chose.
Tiens, on va accueillir Cyril. Alors qu'il y a une espèce assez curieuse. Il est supporter du PSG, mais il aime bien Rennes, Cyril. Salut Cyril.
Salut les gars.
Mais il doit être d'origine bretonne.
Salut Cyril.
T'es breton Cyril, c'est ça?
Non, Cyril il est d'origine espagnole et supporter du Paris Saint-Germain, mais il habite à côté de Rennes. Donc
je pensais que t'habitais près de la gare Montparnasse.
Là-bas. Ou d'une crêperie.
Voilà. Il y en a plein
à la gare Montparnasse.
Bah oui.
Ouais, forcément.
Tu es dans le 14e, la rue des crêperies et tout, si t'habites par là, à mon avis, tu dois trouver Rennes sympa.
Et donc je voulais mettre l'accent en fait sur surtout un petit peu en tant que Parisien. En fait, le fait d'avoir vu un Marseille vraiment, vraiment pas grandiose, après trois victoires un peu euphoriques, je trouvais que mes potes supporters de Marseille commençaient à s'enflammer et en fait, ça s'est vite éteint. Parce qu'aujourd'hui, contre Rennes.
Si tu t'enflammes quand tu bats Dijon, Amiens et je sais plus qui, c'était qui le troisième?
Et moi, ça me fait rire.
Dijon, Amiens.
Et voilà. En l'occurrence, Bordeaux. Je suis content pour Rennes, mais par contre, je suis allé les voir contre Séville la semaine dernière et c'était vraiment, il y a 15 jours, c'était vraiment bien. Rennes mérite d'être qu'on parle d'elle, de cette belle ville et du club qui marche bien en ce moment.
C'est très vrai ce que tu dis. Tant mieux, c'est bien ce qui leur arrive. C'est bien.
Ouais, puis c'est pas le hasard parce que ça travaille bien depuis un an et demi maintenant, un peu plus d'un an et demi quoi.
Cyril.
Oui, pardon. Non, ce qui est bien aussi, c'est l'environnement. Il y en a qui en parlent aussi, mais pas suffisamment, je trouve. C'est quand tu arrives au stade, cette ambiance foot dans les bars. La fameuse galette saucisse, c'est truffé de monde là, des journées comme aujourd'hui, c'était vraiment sympa. Et donc voilà, et en plus ils ont accroché Marseille, donc je suis doublement content. Voilà messieurs.
Et bah c'est dit, merci Cyril, bonne soirée.
Merci, il m'a donné faim Cyril moi là.
Ouais, tu sais quoi, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Oh. La galette saucisse là.
On n'a pas mangé. Hein.
Tiens, on a une grosse pensée aussi pour Jérôme Thomas qui est allé voir le match aujourd'hui aussi. Il est comment au fond? Alors lui, il touche plus le sol en ce moment.
En ce moment, oui, il est. Ouais.
Pablo est supporter de l'OM et il nous a appelé au 32-16. Salut Pablo.
Salut tout le monde.
Bonsoir Pablo.
Salut
Pablo.
Alors quelle analyse fais de ce match nul toi Pablo de l'OM à Rennes cet après-midi?
Alors moi, je suis content qu'on n'ait pas perdu déjà, parce que contrairement à ce qu'il disait Cyril là, qui vient d'intervenir, moi, après les trois victoires contre trois équipes bidons là du fin fond de classement, ça m'intéresse pas. C'est maintenant ce qu'on propose face à des équipes qui jouent au football. Rennes cet après-midi, ils ont joué et on s'est retrouvé en galère. On n'a pas proposé grand-chose. On s'en tire bien avec un match nul. Honnêtement, je suis content qu'on n'ait pas perdu. Maintenant, il y a un match important face à Saint-Etienne. Et là, il y a deux gros matchs, en fait, c'est Saint-Etienne et Nice. Après, on va à Paris, donc à Paris, moi, je me fais pas trop d'espoir. Hein. Mais ces deux matchs-là, là, c'est maintenant ces deux matchs maintenant qui sont primordiaux pour l'OM et qu'il faudra pas perdre, en fait.
C'est ça.
Voilà, qu'il faudra, ah ouais. il faudra gagner. Voilà, en fait, c'est ça. Je m'en fous qu'il y ait trois supporters, trois mecs qui comprennent rien au foot, qui se soient enflammés après trois victoires. Ça nous a fait du bien pour le moral, mais honnêtement, footballistiquement parlant...
Ça t'a permis de remonter au classement aussi.
Le moral et les points, surtout. Ouais.
Ces trois victoires-là te permettent justement d'aborder le match contre Saint-Etienne en te disant « Le virage, il est peut-être là pour nous. »
C'est ça, exactement. Exactement, c'est ça, en fait. Mais au final, c'était normal qu'on batte ces équipes-là. C'était genre, il fallait les battre, sinon t'as rien
bien
à faire...
Sûr.
Tu peux pas avoir les prétentions qu'avait l'OM en début de saison si tu peux pas, par exemple, battre Dijon, Amiens et je sais plus qui.
Ou les Pantins de Bordeaux.
Voilà, les Pantins de Bordeaux.
Parce qu'il y a vraiment une équipe de Pantins en ce moment en Ligue 1, c'est bien Bordeaux.
Ah ouais, franchement, en ce moment,
Bordeaux, c'est une catastrophe absolue.
On va en parler dans quelques instants. Juste pour rester quand même
Le club est en train de s'évaporer à Bordeaux.
Là, cet après-midi.
Stade vide. Entraîneur, là, il y a plus d'entraîneur, là, à part le prof de gym, là, qui est sur le bord du terrain. Les joueurs dorment, ils veulent plus jouer. Le président, il est là, on sait pas s'il comprend rien au ballon, je sais pas ce qu'il est venu foutre là. Ce club s'évapore. C'est une catastrophe.
Juste pour terminer quand même sur Marseille, il y a aussi un élément, là, qui est important. On en avait parlé notamment ces derniers jours aussi avec Jonathan Macardy, mais il y a les retours de Gustavo et de Payet. Alors ils n'étaient pas titulaires au coup d'envoi de ce match, mais là c'est vrai que Garcia, il va avoir des
choix.
Il va devoir trancher quoi, choisir maintenant.
Bah, en même temps c'est son taf, non?
Bah oui.
Pas l'inverse.
C'est plutôt bien, hein. Ouais. C'est plutôt bien pour lui.
Oui, là il va falloir se poser la question contre Saint-Etienne. T'as gagné les trois matchs qui étaient des matchs faciles, mais avec une compo où t'as essayé quelque chose, c'est-à-dire Germain avec Balotelli, la doublette Sanson Maxi Lopez. Est-ce que au moment de jouer un gros match, et t'as vu cet après-midi que contre un adversaire qui te rentre dedans, après le truc c'est savoir ce que fera Saint-Etienne, parce que forcément équipe gros match, je vais à l'extérieur, il est probable que Saint-Etienne se mette derrière.
Non,
et attendre,
pas contre Marseille. Je pense pas.
Ah, je demande à voir. Mais bon.
Moi, je pense pas. On verra.
Je sais pas.
Ils feront pas comme contre le PSG.
Je ne serai pas là. Tu en parleras avec quelqu'un d'autre dimanche prochain.
tu seras en vacances.
Voilà. Bon. Donc, on verra bien ce qu'ils proposeront à ce moment-là. Mais en tout cas, d'ici là, Garcia devra décider. Est-ce que je remets Gustavo?
Pas remettre Balotelli tout seul pour remettre Payet ou un truc comme ça.
Payet avec lui devant. J'en sais rien. Peut-être. Pourquoi pas? Est-ce qu'il va remettre Luis Gustavo au milieu?
Bah, ça semblerait plutôt logique.
Voilà. Je suis pas sûr qu'il touche au Campos Tovin sur les côtés. Mmh. Donc, est-ce que, à la place de Maxi Lopez, il met Gustavo avec Sanson? Possible aussi, tu vois,
Ouais. Mais bon, en même temps, c'est des bons problèmes à avoir.
Il paraît. Pour un entraîneur.
Merci à Pablo, en tout cas, de nous avoir appelé au 32-16 dans quelques instants. Tiens, vous voulez parler de quoi derrière? Vous voulez qu'on parle de Bordeaux ou de Reims?
Bordeaux, il n'y a pas grand chose à dire, honnêtement, sur le Nantes, le Bordeaux-Nantes qu'on a.
C'est vrai que Bordeaux, ça devient inquiétant quand même, hein.
Ouais, mais enfin, honnêtement, j'ai regardé le match, je saurais pas quoi t'en dire.
La grande question pour Bordeaux est de savoir qui s'inquiète. Que ce soit inquiétant, d'accord?
Mais t'as pas
ce que ça inquiète des gens.
Est-ce que t'as pas l'impression?
Oui, mais il n'empêche que je me demande même si eux n'ont pas renoncé.
Ah.
À part
non, mais moi je pense
une
que tu attends
de supporters très fidèles, logiques et tout. Je me demande si le stade est vide.
Si on n'attend pas la saison prochaine, tout simplement. Enfin, l'intersaison pour faire des choses et.
Ouais.
Pour rebâtir, tu veux dire?
Ouais, je pense, je sais pas. Au niveau des investisseurs, en tout cas. Je sais pas.
T'as pas de sable, pas de ciment, rien, tu vas faire quoi? C'est même pas la truelle, tu l'as.
Bah, du coup, on va parler de Reims derrière. La victoire de Reims à Montpellier. Allez, on
fait
ça. À tout de suite avec Pierre Ducrot et Daniel Riello.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, 26e journée de Ligue 1. Elle s'est achevée ce soir avec la victoire de Monaco 2-0 face à Lyon. Cet après-midi, Rennes et Marseille ont fait match nul 1 partout. Victoire de Nantes 1-0 face à Bordeaux. 1 partout entre Toulouse et Caen. Et puis Reims qui s'impose 4-2.
Et Olas qui a réagi.
À Montpellier.
Pour une fois.
Dis-moi que c'est sur Twitter.
Ouais. Et pour une fois. Pardon, je suis en train d'éternuer, mais ça y est arrivé.
T'es allergique ou quoi?
Ce printemps précoce, là,
c'est
ça.
Il y a un
tweet. Et, soit j'ai mal lu, mais il n'y a pas d'excuses.
Oh.
Il n'y a pas de
Bah non, en fait, il est plutôt critique à l'égard. Il est plutôt critique à l'égard de ses joueurs.
Ah ouais.
Ah ouais. Vas-y, trouve-le et lis-le.
Ok,
tiens, vas-y.
Je chope. Ce match contre Monaco nous montre tout le chemin à parcourir pour atteindre tous nos objectifs. Certains joueurs sont très au-dessous de leur potentiel. Ceux qui pensent pouvoir réaliser de gros transferts en fin d'année se trompent. Il faut beaucoup moins parler et donner beaucoup plus. Ah ouais, alors là...
Hey. Je pense que Memphis est visé.
Ah tu oui, certainement.
Ouais, mais enfin honnêtement,
il a fait une belle entrée.
Ouais, voilà, c'est pas le joueur qui a fait tu peux taper aujourd'hui en premier.
Il a fait quoi, Memphis?
En premier, Daniel.
Déjà, il est pas là parce qu'il est pas bon.
Alors, tu sais quoi?
Et quand il rentre, il trouve le moyen de rater un péno.
Alors, il a raté le péno, c'est vrai.
Mais
j'ai plus
envie de te dire, c'est
Subasic
qui l'arrête.
Subasic, il fait un arrêt magique.
L'autre,
il rentre, il fait quoi? Memphis? Il fait quoi, Memphis, depuis des semaines? Mec, il a pas marqué de but depuis combien de temps?
Je vais pas dire qu'il a été bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'au départ, il est sur le banc.
Je me vois dans un club, je me vois
dans le même sac. C'est ça que je veux dire.
Mais Memphis, en ce moment, enfin, s'il te plaît.
Non, mais aujourd'hui, Mendy, Aouar, Ndombele, enfin, tu peux tous les mettre, le nombre de ballons perdus.
Non, mais eux, ils ouvrent pas leur bouche sans arrêt.
Oui.
Memphis, il se prend pour le roi du monde, le gars.
La remarque sur de monsieur là, c'est sûrement pour lui. Ouais.
Avec Memphis, faut qu'il se calme là. Il
a plus marqué. Oh bah, ça y est, j'ai perdu la feuille.
Bah, je pense que ça fait 2 mois minimum.
Novembre 2018. Ouais, il avait claqué un doublé face à un Guingamp.
J'allais dire fin novembre.
Ouais, novembre 2000.
Et donc on est décembre, janvier. Bah, j'ai dit 2 mois. Ils y sont les 2 mois.
En 3 même.
Bah, pourquoi tu me dis non.
Oui.
Bah dis oui.
Voilà, c'est fait. On va parler de Reims qui s'impose donc.
Tu aimais bien oui quand t'étais petit.
Ah, j'adorais.
Ouais, c'est ton genre de personnage.
Ouais, Nordi.
D'ailleurs, je pense que c'est.
Dans mes cours de portugais, on lisait ça. Ça s'appelle Nordi en portugais. Ça n'a rien à voir avec le truc. Voilà.
Je pense que le nœud de papillon te vient de là parce qu'il y a des personnages qui étaient habillés comme ça.
J'ai toujours kiffé sa petite voiture jaune.
Ouais, je pense que Culbuto devait te plaire, le personnage. Non, c'est son copain Culbuto.
Non, j'ai pas envie de parler de ça, Daniel, ça m'a
rendu. Elle est méchant, là, sournois.
Non, j'ai pas envie de
sournois.
C'est passé quelque chose avec
qui? C'est qui sournois et qui l'autre méchant? Il y avait deux méchants.
Oh putain, je sais plus.
Oh, sournois et...
Il y avait le gendarme, là.
Mais il était pas méchant, le gendarme, c'est son pote.
Ah, en même temps, c'est un gendarme.
Il y avait deux méchants. Pas futé, un nom comme ça. Finnois,
Finot, Finot, c'est le chien de d'Inspector Gadget.
C'est vraiment plus.
Bah oui. Avec Sophie. Avec Sophie, sa nièce.
Bon, c'est pas grave, tant pis.
Ah, victoire 4-2 de Reims à Montpellier cet après-midi. Avec notamment un doublé de Houdin. Très très bon ce Houdin. Zenelli qui a claqué un péno notamment aussi. Alors Reims qui est à égalité de points, on le disait tout à l'heure avec Marseille. C'est vraiment l'équipe sensation de cette année 2019. Ils ont pas perdu en 2019. 11 matchs en défaite, toutes compétitions confondues pour les Rémois. Elle est étonnante, hein, cette équipe. Finot!
Avec tes
Finot!
Finot! Sournois et Finot.
Voilà, ça m'est revenu quand
même. Ouais, c'est Finot aussi.
Aussi?
Finot.
Ouais. Comme dans
F-I-N-A-U-D.
Vous êtes pas aussi.
Dans l'entourage de Oui, il y avait Potiron, Mirou. Mirou, ouais. Monsieur le gendarme, qui est donc un ami. Voilà, il y a
Culbuto.
Là, il est pas mis, mais.
Ah si.
Oui, il y avait Culbuto. Non, mais
Culbuto.
C'est dans Oui, ça.
Bah évidemment. Oh là là.
Tu crois que c'était dans quoi, toi?
Je sais pas. Le manège enchanté.
Non, c'est
Pollux. Bah, allez, vas-y. Continue, cousin.
Houdin, il a un nom à être dans un dessin animé.
C'est pas faux.
Houdin, il a un nom de dessin animé. Et il joue bien. C'est un bon joueur.
Hein. Ouais. Voilà. Ouais.
Le partage en sucette. Oui, donc on disait
Reims. Pierre, Reims, analyse-nous ça. Pierre, c'est une équipe que.
Non, mais déjà, moi, j'ai adoré le scénario du match. Voilà, qui était
1-0 pour Montpellier.
Qui était prenant. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Puis après Reims qui fait la différence à la fin. Non, mais moi, j'en avais déjà parlé un peu la semaine dernière. Ils étaient en championnat, je parle. Ils étaient sur 9 matchs sans défaite avec 5 victoires et 4 nuls. Voilà, 6e victoire, 4 nuls. C'est une équipe qui a commencé son championnat en étant en travaillant sur ses bases défensives collectivement, hein, ça défendait très bien collectivement, et puis au fur et à mesure,
ouais, c'est vrai.
Ils ajoutent des compétences, donc ça sort de mieux en mieux.
Ils se lâchent de plus en plus de risques dans les phases offensives, dans les frappes.
Ouais, tu défends de plus en plus haut aussi. Ils arrivent à défendre des beaux buts. Voilà, t'as l'apport aussi d'un nouveau joueur, Zenelli, qui a vraiment, on le disait la semaine dernière aussi, mais qui a des jambes. Son entrée m'avait marqué. Là, son match, c'est la première fois qu'il est titulaire. Il fait encore un bon match. Il dynamise encore un peu plus offensivement le jeu rémois. Donc voilà, c'est une équipe qui est devenue très cohérente. Alors on disait tout à l'heure, est-ce que c'est normal de l'avoir là au classement? Bah, et finalement, avec cette cohérence, c'est ce qui manque à d'autres, équipes qui ont le rôle de potentiel, mais qui n'ont pas cette régularité.
Dans le rôle de l'invité,
c'est la régularité que ces équipes devraient avoir normalement.
Ouais, mais dans le rôle de l'invité surprise, on a eu la grosse période Montpellier.
Et qui n'est pas bien du tout d'ailleurs en ce moment.
Exactement.
Seule période, vraiment très mauvaise dynamique.
Alors eux, les matchs reportés du mois de décembre, je sais pas à quel
point une victoire en 12 matchs.
Ça a cassé leur dynamique, enfin je trouve ça dingue. Il y a eu la belle période Strasbourg, donc qui est encore 8e. Et là, t'as Reims, alors c'est au-delà de l'invité surprise. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de matchs, quoi? Je sais pas à quoi ils peuvent prétendre, parce que là déjà leur saison est extraordinaire.
On peut pas imaginer la
suite. C'est une équipe qui doit censer, je pense que leur première idée quand ils démarrent la saison, c'est le maintien.
Bien sûr.
Maintenant ils sont sixième. À quoi peuvent-ils prétendre, et surtout
tu sais quoi?
Est-ce que eux-mêmes ils se disent on va y aller pour le bonus?
T'as deux solutions quand c'est comme ça, quand t'es dans un groupe où tu fais quelque chose d'extraordinaire qui n'était pas attendu, c'est soit tout le monde à l'envie de continuer à faire plus parce que tu te dis il y a quelque chose à aller chercher.
Oui, se disent
ou
c'est
alors,
bien déjà là.
T'as l'effet inverse un petit peu en te disant
tu mets un frein inconscient.
T'en as 5 6 7 qui lâchent un peu parce que tu te mets effectivement le frein inconscient en disant on a fait le plus dur, c'est bon, on peut prendre du plaisir maintenant et se relâcher un peu. Et
sauf que quand tu avoir des résultats
quand tu te relâches parce que quand tu es ce genre d'équipe, si t'es pas à fond tous les matchs en Ligue 1, t'as pas de résultats après. Tu te relâches, tu prends peut-être un peu de plaisir mais t'as pas de résultats.
Et là maintenant
ça peut être les deux.
Vu le nombre de matchs qui restent d'ici la fin de saison où bon, on veut dire, ils n'ont rien à envier à Montpellier ou Strasbourg. La sixième place, ils pourraient la tenir.
Non, on va voir la capacité mentale de ce groupe à avoir envie d'être ambitieux, à avoir envie d'aller chercher plus encore.
En tout cas, leur saison est folle. Cet entraîneur qu'on connaissait pas du tout s'affirme. Ils ont leur base pour déjà l'année prochaine. Ils peuvent déjà bosser calmement l'année prochaine. C'est bien.
Voyons ce qu'en pense Maxime, supporter du Stade de Reims, qui nous a appelé au 32-16. Oui.
Je laisse Maxime pour connaître bien aussi ce club. C'est un club pareil qui se structure énormément en ce moment, aussi bien au niveau de la formation que des pros. Et en général, quand il y a un club qui fait des bonnes choses comme ça, ça sent bon pour s'installer en Ligue 1, j'entends. Voilà.
Salut Maxime.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir Maxime.
Maxime, tu confirmes ce que vient de dire Pierre, toi, qui suis le Stade de Reims, justement, tu sens cette évolution, cette structuration du club?
Ah oui, là, franchement, depuis maintenant 5 ans, depuis 5 ans, il y a vraiment des gros progrès, essentiellement autour du nouveau directeur général, qui d'ailleurs l'a bien expliqué chez un de vos confrères, il me semble, dans la semaine ou la semaine dernière. Mais effectivement, oui, au niveau des structures, du travail chez les jeunes, même la création d'un deuxième groupe pro, je crois, qu'ils ont créé de cette année, qui fonctionne, puisque par exemple le jeune Boulaïdia vient de ce groupe-là. Et puis, effectivement, c'est une progression linéaire. Et pour répondre un petit peu à votre interrogation tout à l'heure, moi je pense que c'est une équipe qui peut continuer un petit peu sur sa lancée. Alors bien sûr, elle ira pas dans le top 5 parce que il faut être lucide. Mais la différence peut-être avec les autres, c'est que Reims l'année dernière, ils ont été champions largement avant la fin de la saison, et pourtant ils ont continué sur leur lancée. Donc c'est une équipe qui a déjà l'habitude de ce genre de série de victoires ou de matchs sans défaite. Maintenant, effectivement, la Ligue 1, ça reste la Ligue 1. Si dans 15 jours on joue Paris, par exemple, ça peut aussi tout casser, quoi, casser toute cette série. Mais la différence, c'est que là, on repart sur un effectif qui est complètement, quasiment renouvelé en totalité, hormis la colonne vertébrale. Mais on part quasiment avec des nouveaux joueurs. En début d'année, on se basait essentiellement sur notre côté gauche, avec Konan et Doumbia. Et puis au final, actuellement, on joue mieux, et ces deux joueurs-là, ils jouent quasiment plus suite à leurs blessures. Mais en tout cas, on prend beaucoup plus de plaisir, en tout cas offensivement, qu'en début d'année. Parce qu'effectivement, comme vous disiez, on se basait sur la défense, et là, offensivement, ça commence vraiment à être sympa à regarder, quoi.
Ouais, mais c'est des étapes qui ont été acquises au fur et à mesure, et c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal de le faire comme ça.
Mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais David Guillon, il est vraiment à l'image de ce que tu disais. C'est-à-dire la structuration. Lui, il a été au centre de formation, il s'est occupé de la réserve pendant un temps. Il est au club depuis 2012, hein.
Ouais, bien sûr.
C'est vraiment le mec qui connaît ce club par cœur.
Ah oui, c'est clair. Et puis, je sais pas, il dégage un calme et
une sérénité.
Une sérénité exactement. Je pense que ça se voit sur le terrain, quoi. C'est vachement serein, c'est calme. Alors, effectivement,
je me demande si même lui est pas surpris de la façon dont ça se passe.
Mais,
et du niveau de ses joueurs actuellement.
Mais il le montre pas, c'est bien. Il te donne la sensation que tout est normal, tu vois, tout est calme et serein et normal.
Il doit quand même être un peu surpris. Ouais. Ouais.
Merci en tout cas Maxime d'avoir été avec nous.
Tiens, sinon, précision quand même, puisqu'on parlait de ta série quand t'étais petit.
Oui.
Il faut quand même savoir
revenons à l'essentiel quand même.
Revenons à l'essentiel. Les traducteurs étaient quand même un petit peu c'est une œuvre anglaise, étaient un petit peu, à mon avis, un peu taquin.
Coquin.
Parce qu'on a oublié des personnages essentiels, Madame Chatounette, Monsieur La Pompe, et Nestor Bouboule.
Un peu pervers même.
Et Nestor Bouboule. Ouais. Je pense que les mecs ont été un peu vicieux quand ils ont
fait les traducteurs, se contraduit.
Je sais pas si en anglais ça s'appelait Mrs Pussy, tu vois. Je sais pas si elle s'appelait Mrs Pussy.
Ouais, c'est vrai que c'est même pour les enfants.
Monsieur La Pompe, ça, en anglais, monsieur.
Ça s'appelait vraiment Madame Chatounette.
Monsieur Blowjob, je sais pas. Oui, mais Monsieur La Pompe.
Monsieur Blowjob.
Monsieur La Pompe et Madame Chatounette. Et Nestor Bouboule.
Tu sais comment il s'appelle en anglais d'ailleurs?
Bah non, je sais ça.
Bah c'est Noddy, je crois.
Ouais, c'est Noddy.
C'est Noddy, ouais.
C'est pas Yes.
Je te dis, les gars, ils font tout en VO, les mecs.
J'étais gamin. Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure,
attends,
pardon.
Je regardais Olivier Tom au Portugal quand j'étais gamin.
Il les appelait non,
mais attends.
Oui.
Noddy, c'était au Portugal, Olivier Tom, quand j'allais l'été, les dessins animés. Donc,
mais il l'appelait en VO, parce que c'est la VO.
Non,
ça.
Mais c'était mieux que ça. Le dessin animé était pas doublé. C'était en japonais, écrit en gèche, en dessous. Donc t'imagines, le gamin, il a 2 ans, il sait pas lire, il est là à regarder son truc. Bah
justement, ça apprend à lire plus vite.
Ouais, ça apprend le japonais aussi, ouais.
Ça apprend le japonais,
je pense. Ouais. Non, mais je pense que les gamins parlent anglais beaucoup plus rapidement chez vous.
Je vous donne juste 2 petites infos très rapidement.
Oui, Monsieur Lapon.
Il parle mal portugais après, mais il parle bien anglais.
Je parle bien japonais, par
contre. C'est drôle ce nom, Monsieur Lapon.
Leicester qui a remercié Claude Puel au lendemain de la défaite 4-1 à domicile face à Crystal Palace. Et puis tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ce sera du 23 mai au 15 juin prochain en Pologne. La France qui est dans le groupe de l'Arabie Saoudite, du Panama et du Mali. Le 25 mai, ce sera le match face aux Saoudiens. Le 28 mai, face aux Panaméens. Et le 31 mai, face aux Maliens. Merci les gars.
Bah merci à toi quoi.
Merci à Cyprien Bétou qui nous a aidé à préparer cette émission. Quentin Barbère également. À demain également effectivement. Et puis le RMC Poker Show prend le relais tout de suite. Je vous rappelle très très vite les résultats de ce dimanche 26e journée de Ligue 1. Montpellier qui s'incline 4-2 à domicile face à Reims. Un partout entre Toulouse et Caen. Pareil entre Rennes et Marseille. Nantes qui bat Bordeaux 1-0 et victoire de Monaco 2-0 face à Lyon. Merci à tous. Bonne nuit, à demain. Bisous. Ciao.
RMC Football Show. L'After Foot.